Les conseils d'usage qu'un père donne à sa fille au moment du mariage et par ricochet à toutes les femmes présentes, on les connaissait déjà par cœur. Ils ne se résumaient qu'à une seule et unique recommandation, soyez soumise. Acceptez tout de nos époux, il a toujours raison, il a tous les droits et nous tous les devoirs. Si le mariage est une réussite, le mérite reviendra à notre obéissance, à notre bon caractère, à nos compromis. Si c'est un échec, ce sera de notre seule faute et la conséquence de notre mauvais comportement, de notre caractère exécrable, de notre manque de retenue. Pour conclure, patience, mounial, face aux épreuves, la douleur, aux peines. Bonjour Jaïli Amadou Amal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Culture en direct de Douala, au Cameroun, où vous vivez et où vous êtes repartie après avoir remporté cette semaine donc le prix Goncourt des lycéens pour son roman Les Impatientes, publié aux éditions Emmanuel Colas et dont je viens de lire un extrait. C'est un roman qui se passe dans l'extrême nord du Cameroun, chez des Peuls, sédentarisés. Nous sommes d'abord avec Ramla, 17 ans, mariée de force avec un homme riche et puissant de 50 ans. Puis avec Indou, sa sœur, mariée de force, elle aussi, avec son cousin Moubarak, qui boit trop et se drogue, la frappe et la viole. Puis enfin avec Zafira, qui a 35 ans, se voit obligée de partager son mari, puisque celui-ci décide de prendre une deuxième épouse, une co-épouse, qui n'est autre que la jeune Ramla du début du roman. Vous avez dit, Jaïli Amadou Amal, que ce prix Goncourt des lycéens vous donnait de l'espoir. Expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, pour moi, que des jeunes puissent être sensibles à des sujets aussi graves, aussi difficiles que les violences faites aux femmes et la condition des femmes, pour moi, ça signifie tout simplement que ces jeunes-là, ils sont déjà très conscients des problèmes et c'est de l'espoir pour l'avenir, tout simplement, l'avenir d'un monde meilleur.
Très conscients.
Ces jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les adultes de demain.
Oui, voilà, très conscient de ces problèmes existants et peut-être avec la volonté, effectivement, de faire en sorte que les choses changent.
Voilà, exactement. Et puis rappelons quand même que quand on parle de violences faites aux femmes, le contexte du roman se passe certes dans le nord du Cameroun, mais le sujet reste universel puisque ça se passe partout ailleurs. Quand on parle de mariage précoce et forcé, de la polygamie, c'est un problème peut-être plus dans certains états, mais les violences physiques, psychologiques, les maladies psychosomatiques dont on parle dans le roman, c'est vraiment valable dans tous les pays.
Alors il y a toutes ces violences effectivement que vous décrivez dans ce roman et il y a ce mot qui devient insupportable à force d'être répété, mounial, patience, c'est ce que toutes ces femmes s'entendent dire en réponse à leur malheur. C'est plus qu'un mot, c'est présenté comme une valeur mais c'est un ordre au final, l'ordre de se taire, Jaïli Amadou Amal.
Bien sûr, quand on vous dit patience, ce n'est pas que patience, tout simplement. Quand on vous dit patience, c'est simplement accepte tout, soumets-toi, surtout sans te plaindre. C'est ça, en fait. Et donc, ce mot qui, au départ, est une valeur, puisque la patience reste quand même une valeur, devient tout simplement insupportable. Et toutes les femmes ont envie de dire tout haut ce qui peut paraître un blasphème dans notre société. Je suis fatiguée d'être patiente.
Au début de votre livre, il y a un proverbe peul, la patience cuit la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'avec de la patience, on peut boire tout un lac avec un chalumeau. Ça veut tout simplement dire que, dans ce proverbe-là, qu'il faut tout simplement patienter, attendre, et qu'avec de l'attente, on peut arriver à tout, même à ce qu'on sait impossible. Alors, parce qu'on peut bien entendu pas cuire une pierre.
Dans les pays africains où il a été publié, le livre, ce livre s'appelle « Mounial, les larmes de la patience ». En France, c'est donc « Les impatientes » et c'est un excellent titre aussi parce que ces trois femmes, chacune à leur manière, ne supportent plus précisément cette injonction « patience », c'est ce qu'elles ont en commun.
Voilà. Au départ, comme vous l'avez bien dit, le roman avait pour titre Mounia, les larmes de la patience. Mais nous avons voulu aussi quand même, pour voilà, le lectorat occidental, avoir un titre beaucoup plus fort, beaucoup plus optimiste aussi, puisque si, voilà, quand on voit dans le roman, en fait, ce sont des femmes qui se battent contre tout un système et qui ne se laissent pas faire et qui cherche par tous les moyens à s'en sortir. Ramla par la fuite. La fuite, on peut dire que c'est une forme de courage. Et puis, Hindou, en faisant tout pour faire partir sa co-épouse, là aussi, elle arrive à ses fins. Et là encore, c'est une forme de courage. Toutes ces femmes sont simplement des femmes qui refusent de se plier à ce que la société attend d'elles. Ce sont des femmes impatientes.
Voilà, titrer les impatiences, c'est mettre effectivement cela en valeur. Alors, vous êtes née vous-même là où se déroule le roman Djaïli Amadou Amal. Vous avez connu le mariage forcé, les violences conjugales. Pour autant, vous dites que ce roman n'est pas une autobiographie, c'est plus large que cela. C'est l'histoire de vos sœurs, de vos amies, de vos voisines, dites-vous. Et c'est cela aussi qu'apporte effectivement le caractère polyphonique de votre livre. C'est qu'au fond, et vous venez de le dire vous-même, c'est un système qui est décrit.
Voilà, exactement, la voix de plusieurs femmes et la voix des femmes qui existent, qui ont réellement existé. Et voilà, et puis c'est la voix finalement de toutes les femmes hein, dans l'Afrique subsaharienne, parce que ce roman aurait très bien pu se passer dans un milieu chrétien, aurait très bien pu se passer au Burkina Faso, au Sénégal, en Guinée, etc. Dans tous ces pays, c'est pratiquement la même culture et la condition des femmes reste la même pour tous. Donc, je voulais à travers ça décrire tout simplement ce système-là dans lequel les femmes sont oppressées et où elles se sentent tellement piégées et où elles ont beau se retourner de tous les côtés, elles se sentent piégées et n'ont pas de solution puisqu'on arrive très difficilement à se battre contre un système.
Et en même temps, ce système, les femmes en souffrent et elles le perpétuent. Pourtant aussi, voici ce que dit Ramla, la première narratrice pendant le double mariage qui ouvre le livre, le sien et celui de sa sœur. Quand les invités se furent rassemblés, l'imam entra, tenant une planche où étaient inscrits les derniers versets du Coran. Il fit répéter le texte sacré à Hindou, puis à moi. Toutes les femmes qui nous entouraient pleuraient, chacune revivait à travers nous sa propre angoisse et ses désillusions. Il y a les impatientes, mais il y a les patientes également dans votre livre, Djaïli Amadou Amal, les mères, les tantes, qui contribuent aux violences faites à leurs filles alors qu'elles en ont elles-mêmes souffert et qu'elles en souffrent encore.
Exactement. Il faut toujours qu'on rappelle quand même que les violences faites aux femmes sont perpétuées par les femmes elles-mêmes. Et c'est parce qu'elles ne connaissent pas autre chose en réalité qu'elles perpétuent ces violences-là. Elles n'ont pas, en fait, elles n'ont pas une autre idée de la vie. C'est ce qu'elles ont appris. On leur a inculqué des valeurs. On leur a dit que pour être une femme parfaite, voilà comment il fallait se comporter. Et c'est comme ça qu'elles inculquent à leurs enfants. Donc, quand on parle même de mutilation sexuelle génitale, c'est toujours les femmes qui perpétuent cette violence sur d'autres femmes pour le plaisir de l'homme. Et donc, le mariage précoce et forcé, il faut le rappeler, se passe toujours par la persuasion et le chantage affectif que font les autres femmes de la famille sur la jeune fille, en fait. Et donc, il faut que la femme puisse avoir une autre idée de la vie, qu'elle puisse prendre conscience pour que les choses puissent évoluer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de comment dire, d'accuser les hommes. Il faut d'abord que les femmes elles-mêmes prennent conscience qu'elles veulent changer les choses pour que ça puisse se passer.
Oui, on voit notamment aussi dans votre roman que la polygamie instaure un climat affreux, en fait, de rivalité entre les différentes femmes, là où au contraire on se dit qu'elles pourraient avoir envie d'être solidaires. En vérité, elles sont rivales et c'est cela aussi qui rend le système absolument pernicieux.
La polygamie, justement, une co-épouse n'est pas une amie, elle n'est pas une sœur, c'est tout simplement une rivale qui vient prendre votre place dans le cœur du mari. C'est une rivale qui vient, voilà, pour pratiquement hein, vous éloigner. Mais pire encore, et c'est là où les femmes se battent comme des lions, c'est tout simplement une femme qui va venir avoir ses propres enfants et par conséquent, diminuer l'héritage de vos enfants.
Oui, et on voit justement que cette rivalité entre femmes se fait aussi justement pour les enfants, c'est-à-dire que en fait, on accepte aussi le sort qui est fait à sa fille pour qu'au final, elle ne soit pas desservie par rapport aux filles des coépouses.
Voilà, exactement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis, comme le regard des autres reste important, on est prête à se faire violence pour faire bonne face, comme on dit, pour faire, voilà, on est prêt à faire semblant d'être heureux. Et là, je le dis dans le roman, tant que personne ne se doute que je suis malheureuse, je peux faire semblant d'être épanouie.
Alors vous êtes vous-même peu le Jaili Amadou Amal, vous êtes vous-même musulmane, mais vous dites que ce que vous dénoncez avec ce livre, c'est une mauvaise interprétation du Coran, des textes religieux. Il n'y a pas pour vous quelque chose de fondamentalement contre les femmes dans la religion, dans cette religion ?
Je pense que non. Je pense que non parce que on a quand même plusieurs messages qui défendent les femmes, qui donnent des droits aux femmes, des droits qu'elles n'avaient pas avant l'islam, tout simplement. Donc, pour moi, il ne s'agit pas en fait d'un débat où on va se dire voilà, est-ce que l'islam est pour ou contre les droits des femmes. Pour moi, la question ne se pose pas. Le véritable problème reste non seulement la mauvaise interprétation des textes religieux, mais également l'amalgame entre nos traditions et puis ces mêmes textes religieux. Quand on parle de l'éducation des filles ou du mariage forcé, l'islam encourage l'éducation des filles et l'islam encourage le mari. L'islam interdit le mariage forcé. Donc voilà, il fallait aussi essayer de mettre en lumière cela. Mais comme je le disais aussi tantôt, pour moi, l'idée, ce n'est même pas de parler voilà, de la religion, c'est plutôt de décrire la condition des femmes dans un milieu bien donné. Et là, c'est le milieu de l'Afrique subsaharienne. Et cette condition-là, comme je le disais tout à l'heure, elle est valable aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens et chez les autres, en fait. C'est la même partout. Donc, on va dire que c'est plus les traditions que les religions, en fait, qui restent un poids pour les femmes. Évidemment, on ne va pas nier quand même que ces 20 voire 30 dernières années, il y a une montée quand même dans l'Afrique subsaharienne d'un islam wahhabite, d'un islam intégriste. Et donc, évidemment, avec cela, c'est une autre image de l'islam et qui ne favorise absolument pas le droit des femmes. Là, il faut aussi relever ça. Et mes tantes, ma maman avait beaucoup plus de droits que les filles d'aujourd'hui.
La présidente du jury du prix Goncourt des lycéens, elle s'appelle Clémence Nominé, elle a 16 ans, elle est élève en première, a dit « On espère que avec ce prix, ce livre aura un impact sur le monde entier. » Vous-même, Jaili Amadou Amal, vous dites que la littérature vous a sauvé la vie. Vous croyez donc à ce pouvoir de la littérature de changer le réel ?
Non seulement j'y crois, mais et que j'en suis persuadée, mais en fait je suis la preuve vivante. Hein. Je suis la preuve qu'avec la littérature, on peut non seulement changer le monde, mais changer pratiquement son destin. J'ai été mariée à 17 ans à un homme qui en avait plus de 50, un homme politique très influent et évidemment. Imaginez une jeune fille qui était au lycée et qui se retrouve d'un seul coup dans une grande maison avec des coépouses, avec des enfants de ses coépouses qui étaient beaucoup plus âgés, avec un homme qu'elle n'aime pas et tout ça. Le seul moment de bonheur que j'avais, c'était d'ouvrir un livre. Parce que quand j'ouvrais un livre, je pouvais me trouver n'importe où, sauf là où j'étais, tout simplement. Mais ensuite, j'ai eu des filles moi-même. Et je me suis posé juste une simple question. Si je reste là et que je continue à ne rien faire, que va-t-il se passer? La réponse était toute simple. Mes filles auraient 14 ans, 13 ans, elles seraient envoyées en mariage et je ne pourrais absolument rien faire pour les défendre. C'est pour cela que j'ai commencé à écrire. D'abord comme exutoire, comme une thérapie, mais ensuite je n'avais pas d'autre choix que de chercher à publier. Et c'est pour cela que je me suis enfuie de ma ville natale pour pouvoir justement arriver à la capitale, donc dans le sud du pays, publier mon roman pour que justement être une voix suffisamment forte pour que le jour où mes filles seraient en âge d'être envoyées en mariage, je sois forte et que je sois assez connue pour pouvoir empêcher cela. Et la littérature a fait ça, ça a fait des miracles. Non seulement je suis devenue plus forte, mais je le suis devenue suffisamment pour pouvoir justement parler de la condition des femmes et être, voilà, la voix de toutes ces femmes. Et non seulement être leur voix, mais aussi pouvoir les défendre. Immédiatement après la publication de mon premier roman, tout ce que j'ai fait, c'est créer une
Oui.
association, donc, pour la défense de ces droits des femmes et pour l'éducation des filles.
Et nous allons en parler effectivement après 7 h 30 de ça, de cet engagement et puis de la réception de ce livre dans votre pays également, Djaïli Amadou Amal, parce que c'est le premier publié en France, Les Impatientes, mais c'est votre troisième roman tout de suite. Et pour comprendre aussi un peu ce que vous représentez justement au Cameroun, nous allons écouter une chanson que vous nous avez envoyée. Elle porte votre nom et l'interprète, c'est Bach.
Une étoile filante à Paris, cette fois au Cameroun. Djaïli Amal au Cameroun vous soutient. Une étoile filante à Paris, cette fois en Afrique. Djaïli Amadou Amal, les Africains vous soutient. A Winni Deftere Walande, l'art de partager un mari. A Winni Deftere Mystérie. La mangeuse d'âme, a Winni Deftere Walande, a Winni Deftere Mystiri Jo. Benjangide ha America, Benjangide ha Europa, Benjangide ha Asia, Benjangide ha Africa, Babe Jainika Kiju Cameroon.
Alors, Djaïli Amadou Amal, expliquez-nous un peu cette chanson. Elle a été écrite pour vous encourager pour le Goncourt, c'est ça?
Oui, c'est ça. Eh bien, je dois dire que j'ai été agréablement surprise. Dès la première sélection du prix Goncourt, eh bien, c'était, voilà, c'est que les gens subitement prennent conscience. Tiens, mais c'est quoi le prix Goncourt? De quoi on parle, en fait, sur les réseaux sociaux? Et puis, pour leur expliquer les choses, tout simplement, en fait, l'idée, c'était de leur dire tout simplement que c'était, en fait, une sorte de coupe du monde de la littérature. Donc, un peu comme dans le football, comme les Camerounais adorent le foot. Donc, on leur a expliqué ça comme ça. Et puis, d'un seul coup, voilà, c'est tout le monde qui parle du concours, c'est tout le monde qui s'intéresse au concours et c'est tout le monde qui se sent impliqué et qui veut encourager, un peu comme on encouragerait les Lions Indomptables dans le milieu du football.
L'équipe de foot.
Et donc, voilà, deuxième sélection, troisième sélection, le concours des lycéens, etc. Et ça aboutit aussi sur une chanson d'encouragement pour dire que voilà, les textes que j'ai écrits, en fait, c'est pour encourager. Dans la chanson, il dit c'est pour aider nos femmes, nos hommes à mieux comprendre les choses et c'est pour aider les enfants à avoir une vie meilleure. Et que voilà, et que c'est le concours, en fait. Et donc voilà, le prix Goncourt est maintenant très très célèbre dans un milieu où
Oui, ne l'était pas forcément.
Les gens sont même lettrés.
Parce qu'effectivement, avant de recevoir le prix Goncourt des lycéens, vous étiez finaliste, hein, vous faisiez partie des quatre finalistes pour le Goncourt. Les Impatientes, votre premier livre publié en France, qui a reçu l'an dernier aussi le prix Orange du livre en Afrique. Nous vous retrouvons, Djaili Amadou Amal, dans 3 minutes sur France Culture. Il est 7h34 et nous retrouvons notre invitée culture, l'écrivaine Djaili Amadou Amal, prix Goncourt des lycéens pour Les Impatientes, publié en France par Emmanuel Colas. Djaili Amadou Amal, nous l'avons entendu juste avant 7h30, vous nous l'avez dit, vous croyez au pouvoir de la littérature, vous êtes aussi engagée sur le terrain avec donc cette association que vous avez créée en 2012-2013 et dont vous êtes la présidente, l'association Femmes du Sahel. Expliquez-nous un peu ce que vous faites avec cette association.
Eh bien, l'association Femmes du Sahel, c'est une association donc, que j'ai créée en 2012 après la publication de mon roman et un programme de leadership féminin. Et donc, l'association a deux volets, l'éducation et le développement de la femme. L'éducation, donc, nous parrainons des enfants avec un pourcentage de 80% de filles, surtout dans les zones rurales, dans le nord Cameroun. Donc, ces filles, généralement, ne sont pas inscrites à l'école et même dans le cas où elles le sont, leur éducation prise en compte par les parents et n'est pas encouragée en fait. Et puis généralement donc elles quittent l'école très très tôt avant d'avoir terminé le cycle primaire. Donc nous les parrainons, nous en prenant en charge totalement leur scolarité. Nous avons entre 300 et 400 enfants parrainés par l'association chaque année. Nous créons aussi des petites bibliothèques scolaires pour pouvoir justement mettre entre les mains des enfants des livres, des enfants qui généralement peuvent passer tout le cycle primaire sans avoir jamais vu un livre de leur vie. Et puis nous faisons énormément de sensibilisation et de causerie éducative dans les lycées et dans les collèges. Nous sensibilisons entre 7000 et 10 000 filles par an sur l'importance pour les filles d'avoir un diplôme, comment se prémunir des violences, notamment le mariage précoce et forcé, et puis toutes sortes de violences. Nous faisons également des sensibilisations avec les parents, auprès des autorités religieuses, auprès des chefs de quartier, également donc une sensibilisation de proximité, on dira ça comme ça. Et donc ça c'est pour le volet éducation et pour le volet développement, nous aidons tout simplement les femmes à être plus autonomes. Nous les encourageons à avoir des activités générales de revenus, nous les aidons à mieux gérer leurs finances et puis nous faisons aussi de la l'alphabétisation, donc etc.
Oui, etc. C'est déjà beaucoup de choses parce que en effet, si la littérature peut sauver, comme vous dites qu'elle vous a sauvé, encore faut-il y avoir accès. Et donc évidemment, la mère des batailles, c'est l'éducation. Mais ce qui est intéressant dans votre roman, Djaili Amadou Amal, et là vous l'avez dit un peu, c'est que on voit que ça n'est pas seulement effectivement une question de moyens, parce que dans le livre Ramla, elle explique qu'elle est la seule parmi ses très nombreux frères et sœurs avoir l'intérêt, à avoir envie de poursuivre l'école, les études. Dans cette famille-là, ce n'est pas une question de moyens. Voilà, ils ne sont pas pauvres. Mais il y a, au-delà de la question des moyens, voilà à quoi ça sert, en fait, l'intérêt pour l'école et pour les études.
Exactement. Mais tout ça, justement, c'est parce que on reproduit en fait dans une société ce qu'on voit. Et quand on vous dit que tout ce que les femmes peuvent faire, c'est simplement être de bonnes ménagères et savoir tenir un foyer et être une maman, c'est tout simplement ça le rôle que les femmes ont. Et donc les jeunes filles n'ont pas une autre image en fait. Elles ne peuvent pas se projeter. Et c'est pour cela que c'est important. Et là, nous le faisons aussi avec les sensibilisations dans les collèges et dans les lycées. À chaque fois que je fais une sensibilisation, non seulement j'y vais moi-même, mais également avec une autre membre de l'association qui a réussi dans son domaine respectif et qui est dans la ville en question. Donc, il s'agit de montrer aussi aux jeunes filles une autre image. Donc, et leur dire que voilà, moi, je suis une écrivaine, ça veut dire que vous pouvez l'être également. Mmh. Et donc, il faut pouvoir justement donner envie aux enfants d'être autre chose. Et on a fait une petite enquête sur le terrain dans un milieu rural où, voilà, comme je le disais, les enfants n'avaient pas de livres, évidemment, pas de télévision, rien, puisqu'ils n'avaient même pas d'électricité. Et quand on demandait aux jeunes, aux filles, aux petites filles, qu'est-ce qu'elles voulaient devenir plus tard, eh bien, tout ce qu'elles pouvaient dire, c'est « je veux devenir une maman, une épouse, mmh. tout simplement ». Et pour les petits garçons, le plus ambitieux, c'était « je veux devenir… » voilà, c'est juste des métiers liés à l'agriculture, à la pêche, tout simplement. Et donc, c'est pour cela que c'est important d'envoyer des livres dans ces endroits-là pour que les enfants puissent voir qu'il peut exister autre chose, qu'on peut être autre chose, qu'on peut avoir d'autres rêves. Mmh. Et même pour les parents, en fait, quand ils décident de ne pas encourager l'éducation des filles, c'est surtout parce qu'ils ne peuvent pas imaginer à quoi peut servir cette éducation-là et à quoi leur servirait finalement de dépenser de l'argent pour envoyer les filles à l'école alors qu'elles ne sont destinées qu'au mariage et qu'à aller vivre dans une autre famille.
Mmh. Montrer ce qui est possible. Et justement, vous vous dites que ce prix Goncourt des lycéens montre aussi aux jeunes auteurs africains qu'il n'y a pas besoin de s'exiler, qu'on peut faire vivre la littérature africaine en Afrique et la faire rayonner dans le monde. Ça aussi, c'est un message important à faire passer pour vous.
Très important. Très important parce que justement c'est le concours des lycéens et vous savez quand on est en Afrique, quand on vit en Afrique, qu'on écrit en Afrique et qu'on veut vivre notre littérature sur le continent, à chaque fois qu'il y a un événement culturel comme un salon du livre et autres, les écrivains finalement qui sont sur le terroir sont considérés comme des écrivains de seconde zone. Mmh. Donc, ils ne sont pas invités dans les mêmes hôtels que les autres écrivains qui se sont exilés, qui habitent en France et autres. Ils n'ont pas les mêmes perdièmes, ils n'ont pas la même considération, etc. Et donc, dans leur idée, dans leur tête, c'est tout simplement que pour réussir dans ce milieu-là, pour être reconnue, il faut que je parte en France, il faut que je parte vivre en Europe, il faut que je me fasse publier en Europe, etc. Donc ce prix Goncourt, c'est aussi l'idée de leur dire, regardez, moi je vis en Afrique, je travaille à partir de l'Afrique, j'ai publié tous mes romans en Afrique avant que celui-ci ne soit repris par une maison d'édition française. Donc le contraire peut aussi très bien se faire et c'est nous qui faisons vivre la littérature sur le terrain, c'est nous qui donnons les ateliers d'écriture aux enfants. C'est nous qui faisons des dédicaces, des rencontres, etc. Donc, on peut très, très bien vivre dans nos pays, faire rayonner la littérature dans nos pays, mais également travailler suffisamment et travailler bien et se faire connaître à l'international. Donc, rien n'empêche pas l'autre. Mmh. Alors, c'est vraiment de l'espoir pour ces jeunes-là. Ils ont fait des vidéos de soutien. Ils étaient à fond pour ce prix Goncourt.
Déjà la chanson, voilà.
Tout le monde se sent concerné. Et donc, voilà, hier à l'aéroport, quand je suis rentrée, il y avait des dizaines de ces jeunes écrivains qui étaient là et qui étaient tellement contents. Et c'est notre Goncourt, c'est ce qu'ils se disent. Et voilà, ils sont maintenant, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête, qu'ils n'ont pas besoin de partir pour réussir. On peut rester chez nous, travailler, réussir et se faire connaître ailleurs.
Et chez vous, c'est Douala au Cameroun et c'est donc de là que vous êtes avec nous ce matin. Nous allons écouter votre choix musical, Jaïli Amadou Amal. Vous nous en direz quelques mots. Ensuite, c'est la chanteuse malienne Oumou Sangaré, Seya. Oumou Sangaré, votre choix musical, Jaïli Amadou Amal. Vous nous dites pourquoi, en quelques mots?
Eh bien, Oumou Sangaré, c'est tout simplement la voix du Sahel. Et puis, c'est la voix féministe, la voix qui chante merveilleusement pour dire les droits des femmes. C'est pour cela que je l'aime beaucoup et que je l'ai choisi.
Et ben voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Jaïli Amadou Amal, d'avoir été avec nous ce matin depuis le Cameroun. Une dernière question, j'ai lu que certains, là-bas dans votre pays, vous prêtaient des intentions politiques. Est-ce que vous auriez envie de faire de la politique ou est-ce qu'au final vous en faites déjà à votre manière?
On peut dire que je fais de la politique en sensibilisant et en parlant de la condition des femmes. Mais la politique politicienne, très peu pour moi. Pour le moment, je me concentre sur la littérature et sur la société civile.
Et votre livre, Les Impatientes, prix Goncourt des lycéens, publié donc aux éditions Emmanuel Colas. Merci encore beaucoup d'avoir été avec nous. Et bravo donc, Jaïli Amadou Amal.